Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Solène Robin.
Bonjour, une personne sur deux sera atteinte d'un cancer au cours de sa vie. Ces mots, vous avez pu les lire dans les rames du métro. Dans la presse écrite, ce sont ceux de la dernière campagne choc de l'Institut Curie. Choc certainement, mais c'est aussi une réalité. Depuis bientôt un siècle, les chercheurs de l'Institut Curie se battent contre ce fléau, première cause de mortalité en France. Curie, ce sont plus de 2000 chercheurs, médecins et soignants. C'est un centre de recherche plus un hôpital qui travaille main dans la main pour pousser la recherche toujours plus loin. Prendre les cancers de vitesse, c'est le projet ambitieux formulé par l'Institut Curie. Comment ? Eh bien, nous vous invitons à le découvrir dans cette émission. L'Institut Curie a été créé en 1909 par Marie Curie et Claudius Regaud, qui étaient, pour précision, un médecin biologiste français. Pour aller plus loin dans le développement de l'Institut en 1921, ils soumettent à son conseil d'administration le projet de création d'une fondation d'utilité publique qui pourrait leur permettre de recevoir légalement des dons et legs. La reconnaissance d'utilité publique est accordée la même année au mois de mai. Alors aujourd'hui, l'Institut est présidé par le professeur Claude Hurier, dont le mandat a été reconduit en novembre 2007 pour 6 ans. Le centre de recherche est dirigé par le professeur Daniel Louvard, qui m'accompagne aujourd'hui. Bienvenue professeur.
Bonjour.
C'est un honneur de vous recevoir au sein de l'Institut de France. Vous êtes vous-même coutumier des lieux puisque vous êtes académicien des sciences depuis 2003. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un autre institut qui vous est cher. Alors pour commencer, quelques mots sur votre remarquable parcours. Vous n'allez pas y échapper. Vous êtes docteur en sciences physiques, directeur de recherche au CNRS depuis 86. Vous êtes également professeur associé à l'Institut Pasteur depuis 90 et vous dirigez ce centre de recherche de l'Institut Curie depuis 93. Alors avant de focaliser notre attention sur ce centre de recherche qui jouit d'une renommée internationale, tâchons de comprendre un peu mieux comment s'organise l'Institut Curie. L'Institut Curie a la particularité d'être une alliance unique entre chercheurs, soignants et patients autour de la recherche contre le cancer. Concrètement, l'Institut se partage entre un centre de recherche, un département de transfert et un hôpital. Professeur Louvard, pouvez-vous nous donner des précisions ? Comment l'alliance entre ces différentes entités existe-t-elle au quotidien ?
Vous avez rappelé l'histoire de l'Institut Curie, qui a été démarré avec l'alliance d'un médecin biologiste anatomopathologiste originaire de la ville de Lyon et de Marie Curie, dont on connaît les travaux considérables en physique et en chimie, puisque ça lui a donné d'abord un prix Nobel.
Un deuxième ensuite.
Et un deuxième ensuite, en physique et puis en chimie. Et aujourd'hui, nous avons maintenu cette tradition. On l'a maintenu sur le plan scientifique, puisque le centre de recherche a la possibilité et jouit de cette richesse qui existait à l'époque de Marie Curie, c'est-à-dire d'avoir des départements de recherche ou unités de recherche associées au CNRS ou à l'INSERM selon les cas, qui couvrent le domaine de la physique, le domaine de la chimie et plus particulièrement la pharmacochimie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des chercheurs qui sont capables de façonner, de créer et de façonner des petites molécules, lesquelles molécules sont en général créées par ces chimistes à des fins d'application thérapeutique et plus particulièrement pour traiter des maladies comme le cancer, qui est la mission principale de l'Institut Curie dès sa fondation. L'article 1 des statuts de l'Institut Curie précisait à l'époque de Marie Curie que la mission de l'Institut Curie était, en associant le savoir-faire des chercheurs, physiciens, biologistes et des cliniciens, d'apporter des solutions diagnostiques et thérapeutiques nouvelles pour traiter les maladies humaines, et en particulier le cancer. Ça veut simplement dire que si on fait une découverte aujourd'hui sur les maladies neurodégénératives à l'Institut Curie, on reste bien sûr dans notre mission.
Donc c'est dans le cadre d'affections qui sont liées au cancer, qui en sont des...
Vous savez, l'universalité du vivant fait que, tout en recherchant des dérèglements qui sont liés au cancer, on peut très très bien s'attaquer à des fonctions qui sont aussi perturbées pour d'autres affections, qu'elles soient cardiovasculaires, qu'elles soient d'ordre neurologique. On peut très bien trouver une application d'un traitement du cancer, et qui, de fait, va aussi peut-être être encore plus efficace pour une autre affection, et vice-versa. Donc on a aujourd'hui l'organisation, donc aujourd'hui c'est cette pluralité, cette diversité des savoir-faire. Et à côté de cela, nous avons, comme vous l'avez rappelé, un hôpital dont la mission principale, on ne vient pas à l'Institut Curie pour une urgence, pour un accident de la route, on vient à l'Institut Curie pour recueillir un avis, pour commencer, un diagnostic, et pour y être pris en charge par des soins qui sont dispensés au sein de l'hôpital. Et on a clairement une spécialisation qui est une spécialisation sur les maladies cancéreuses. Au fil du temps, s'est développé un savoir-faire et une pratique qui est dominante à l'Institut Curie pour le traitement des cancers du sein, qui sont pratiquement sur les 100 000 consultations annuelles qui ont lieu à l'Institut Curie, dans les services de l'hôpital. La moitié de ces consultations concernent des affections gynécologiques et plus particulièrement le cancer du sein.
Ça veut dire que, comment ça se passe techniquement? Les gens sont envoyés par leur médecin quand la maladie est diagnostiquée, ils viennent d'abord. Pourquoi les gens viennent à l'Institut Curie? Par quel biais?
Les gens viennent à l'Institut Curie, soit parce qu'ils connaissent l'Institut Curie et qu'ils disent à leur médecin traitant « j'aimerais aller à l'Institut Curie ».
Il faut qu'ils soient envoyés par leur médecin?
Vous savez que vous ne pouvez pas aller voir un spécialiste aujourd'hui sans avoir vu votre médecin généraliste.
Naturellement.
Dans la pratique, je ne sais pas si ce qui se passe réellement, parce que je ne suis pas en charge de secteur d'activité, mais on peut imaginer que le plus souvent, ils sont envoyés par leur médecin traitant ou leur gynécologue ou un spécialiste qui les envoie à l'Institut Curie. Parce que les médecins de l'Institut Curie ont bien sûr un réseau très développé en Île-de-France, mais pas uniquement, et même avec des pays étrangers. Et donc, ils ont des correspondants qui orientent ces patients vers l'Institut Curie. Souvent, le diagnostic n'a pas été complètement fait. Il y a une suspicion d'une tumeur qui pourra s'avérer être, heureusement, dans un certain nombre de cas, d'ailleurs assez nombreux, une tumeur bénigne. Et ensuite, on peut pratiquer des examens d'imagerie, des prélèvements sous forme de biopsie pour confirmer ou infirmer la présence d'une tumeur maligne. À la suite de quoi, les services d'anatomopathologie qui... Il faut savoir qu'en cancérologie, c'est l'anatomopathologiste qui fait le diagnostic. L'anatomopathologiste qui aujourd'hui dispose, au-delà de son microscope, de nouveaux outils issus de la génomique et de la biologie moléculaire. Mais c'est à ce niveau-là qu'on va faire le diagnostic précis. Et de ce diagnostic que l'on souhaite le plus fin et le plus précis possible, le clinicien est amené à choisir avec une équipe, parce qu'il ne le fait pas seul, c'est un ensemble avec le chirurgien, avec le radiothérapeute, avec le chimiothérapeute, et de choisir le traitement le plus adapté.
J'imagine qu'il y a un va-et-vient permanent entre le personnel soignant de l'hôpital et les chercheurs, les uns pouvant aider les autres par leur recherche, ou les diagnostics même des médecins peuvent, j'imagine, aider la recherche à avancer. L'Institut Curie possède également un centre de transfert. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement un centre de transfert?
Alors, le centre de transfert, c'est un terme qui n'est pas très élégant, parce qu'il y a pire recherche translationnelle. Ça correspond à la démarche suivante. On part les connaissances en cancérologie sur l'origine des cancers, sur les gènes impliqués dans le comportement anarchique des cellules. Donc, est un événement, est une progression dans cette pathologie qui est relativement récente. Il n'empêche que dès les années 90, avant même mon arrivée à la direction du centre de recherche, mon prédécesseur, Pierre Tambourin, avait eu l'idée, avec les cliniciens de l'Institut Curie, de mettre en place un outil qui s'est développé au cours des 15 dernières années, qui est de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le département de transfert. Pourquoi faire? Pour faire en sorte que les connaissances fondamentales, dont le rythme s'est considérablement accéléré au cours des 15 dernières années, ces connaissances ne devaient pas rester purement l'apanage de la population de chercheurs qui découvraient des phénomènes biologiques intéressants concernant la maladie cancéreuse. Mais comment ces connaissances pouvaient-elles, d'une part, modifier l'approche diagnostique, qui est la première étape, puis, à partir de diagnostics, générer des travaux menés en collaboration entre chercheurs et cliniciens pour l'application d'un diagnostic plus fin et un changement dans les prescriptions, dans les traitements et le suivi des malades. Autrement dit, transfert, ça veut réellement dire assurer cette continuité dont tout le monde parle entre recherche fondamentale et à l'extrémité de la chaîne, je dirais, la recherche clinique de traitements innovants qui vont être mis à la disposition des patients pour une meilleure prise en charge, plus efficace, avec moins d'effets secondaires et des chances accrues de guérison. Et donc cette continuité passait inévitablement par ce que l'on va appeler la recherche préclinique, qui est une étape préalable qu'un chercheur et un clinicien conduisent ensemble. Souvent la question vient du clinicien qui a un problème à résoudre et qui, s'adressant à un chercheur, lui dit « mais ces connaissances nouvelles, cette compréhension de l'origine de la maladie, comment ceci peut changer ma perception et mon approche du diagnostic et du traitement ?» Et ça veut dire, à ce moment-là, un duo, un travail ensemble pour assurer le passage de cette connaissance vers une réponse à des questions pour lesquelles on n'a pas nécessairement, d'ailleurs, même au moment de ce dialogue, au moment où on initie ce dialogue, où on a réellement une solution toute faite. C'est de ce dialogue qui, s'enrichissant des expériences passées, mais de nouvelles expériences qui seront elles-mêmes proposées en commun entre le chercheur et le clinicien, qu'on espère pouvoir progresser. Donc, c'est, vous voyez, c'est un trait d'union entre deux types d'activités. Une activité purement cognitive, mais cette connaissance, elle sert à quoi ? Est-ce qu'elle peut m'aider à résoudre un problème ? Certes, la préoccupation du clinicien est d'apporter le meilleur traitement à son patient. Mais il est bien clair que pour apporter une meilleure réponse, il faut mieux comprendre. Et pour comprendre, il faut finalement s'adresser à ceux qui s'interrogent aux limites de la connaissance,
c'est-à-dire
aux chercheurs.
Alors, cette question des découvertes fondamentales que l'Institut Curie a pu permettre, on rentrera un peu plus dans le détail dans la troisième partie de l'émission. Pour rester sur les questions logistiques, en termes de finances, l'Institut vit aujourd'hui avec un budget de 198 millions d'euros. Alors, comment se fait la levée de fonds et d'où provient cet argent ?
C'est une situation aussi complexe que les problèmes que nous étudions. C'est-à-dire que cet argent provient de sources, disons, variées.
Alors, j'ai vu que 13 à 15% des ressources totales de l'Institut Curie provenaient de dons et legs. Ça représente 26 millions d'euros. C'est quand même pas négligeable. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, à leur décès, laissent leur succession à l'Institut. Ça montre que ce sont des gens qui ont été soignés à l'Institut, qui veulent faire avancer la recherche.
Alors, laissez-moi répondre à la totalité de la question avant d'aborder cet aspect, comme vous l'avez dit, est non négligeable. Une quinzaine de pourcents qui proviennent des dons et legs. Mais pour le reste, pour les 85%, je crois qu'il faut ne pas oublier ceux qui nous soutiennent, qui ne sont pas le monsieur tout le monde, c'est-à-dire des organismes. Alors, à commencer, l'État, le ministère de la Recherche.
À quelle hauteur, à peu près, vous savez ou...
Alors, là aussi, c'est compliqué, parce qu'il faut distinguer la somme que vous avez indiquée, la somme totale, représente le budget de l'hôpital plus le budget du centre de recherche. Alors, le budget du centre de recherche, budget consolidé, c'est-à-dire comprenant les salaires, qui ne sont pas entièrement pris en charge par la Fondation ou par l'Institut Curie, le budget consolidé, c'est 70 millions d'euros pour la recherche, pour le centre de recherche lui-même. Donc, ceci se décompose en différents éléments budgétaires. La part salariale est bien sûr, comme partout, importante. Elle est prise en charge en totalité pour les chercheurs par le CNRS, l'INSERM, et les universités.
Alors oui, j'ai vu que les chercheurs de l'Institut Curie ne sont pas des salariés de l'Institut Curie.
Absolument, absolument.
Ils sont salariés du CNRS et de l'INSERM.
Ils sont salariés du CNRS, de l'INSERM, et pour quelques-uns d'entre eux, parce que nous en avons quand même quelques-uns, professeurs d'université, des universités franciliennes. C'est une particularité par rapport à l'Institut Pasteur, qui a le même statut que nous, et pour lequel une partie importante des chercheurs sont des salariés de l'Institut Pasteur. Pour les chercheurs, ils sont tous donc salariés des EPST, enfin des organismes
d'ailleurs,
publics.
Vous-même, si ce n'est pas une question indiscrète...
Moi-même, je suis directeur de recherche au CNRS.
D'accord.
Et mon salaire est un salaire du CNRS. J'exerce une double activité. Vous avez bien résumé mon parcours. Je suis directeur du centre de recherche et j'anime une équipe de chercheurs dans une des unités CNRS, d'une vingtaine de personnes au total qui s'intéressent à la biologie des épithéliums. Donc, le CNRS, à ce titre-là, reconnaît mon activité en tant que directeur et mon activité de chercheur. Et donc, mon employeur principal est le CNRS. L'Institut Curie me verse un complément de salaire qui est la reconnaissance de l'activité que je mène en tant que directeur du centre de recherche.
Bien sûr.
Donc, les chercheurs sont des employés du CNRS et de l'INSERM. La moitié des ingénieurs techniciens et administratifs d'eux-mêmes. Par contre, l'Institut Curie a pour salariés la moitié du personnel technique et administratif, qui est si importante dans les services communs, les plateformes technologiques de haut niveau dans le domaine de l'imagerie, de la protéomique, etc. Et puis, nous avons à côté de cela 150 doctorants qui, pour la grande majorité, reçoivent des bourses de thèse, maintenant des salaires, pour effectuer les trois premières années de leur thèse à l'Institut Curie. Et puis, nous avons en moyenne 120 à 130 postdocs, c'est-à-dire des chercheurs qui ont passé une thèse et qui poursuivent leur recherche avant de trouver un poste plus définitif au CNRS ou à l'INSERM. Et dans ces 130 chercheurs de niveau postdoctoral, la grande majorité, c'est-à-dire plus d'une centaine, sont des postdocs venant des pays étrangers, de la totalité du monde. À titre d'exemple, les cinq dernières années, nous avons eu plus de 500 postdocs étrangers représentant 43 nationalités.
Ça veut dire que eux, financièrement...
Ils amènent aussi leur salaire qui leur est versé par une association, un organisme international. Donc, vous voyez, la diversité, si on compte, parle de salaire, il y a une grande diversité de sources de financement. Si on parle, par contre, des coûts d'infrastructure, du maintien des laboratoires en état de fonctionnement, eh bien ça, c'est l'Institut Curie qui le paye. Si on parle des coûts de fonctionnement de la recherche, du consommable, les produits, les équipements, eh bien, à nouveau, l'Institut Curie y contribue en partie, mais pas uniquement. Le CNRS et l'INSERM apportent des subventions aux unités mixtes que sont les unités qui sont à l'Institut Curie. Et par ailleurs, nous avons un nombre très important de contrats qui maintenant proviennent, contrats sur projet qui proviennent de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, et des contrats européens ou des contrats internationaux, y compris du National Institute of Health, américain. Et donc, vous voyez la complexité du mode de financement et leur diversité.
C'est une organisation assez unique en son genre.
Assez unique.
Je vous parlais tout à l'heure des donateurs qui représentent 13 à 15 % des ressources totales de l'Institut Curie. Il y a également 150 000 donateurs actifs chaque année. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a toujours été identique ou est-ce que ces chiffres s'accroissent? Est-ce que la proportion de dons particuliers augmente?
Il est incontestable que cette proportion augmente. Au cours des 10 dernières années, les campagnes de communication auxquelles vous faisiez référence ont sensibilisé la population.
Donc ça marche. Problème.
Oui, ça marche. Ça marche aussi. Je crois que malheureusement, il y a en parallèle un accroissement du nombre de personnes atteintes de cette pathologie. Et vous savez, cet accroissement, à la fois vous citiez en début d'intervention que nous avions utilisé une approche choc. Une personne sur deux sera atteinte du cancer dans sa vie. C'est malheureusement un chiffre qui s'avère exact et qui probablement, au cours des dix années, des années qui vont venir,
augmentera encore.
Mais il y a une explication à cela. Les cancers touchent les populations jeunes, très jeunes, les jeunes enfants. Et fort heureusement, les cancers pédiatriques, on les soigne de mieux en mieux. Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits au cours des 15 dernières années. Et puis après, il y a une période où cette pathologie n'est pas dominante, disons de l'âge adulte jusqu'à la quarantaine, cinquantaine, si vous voulez. Et puis, le cancer, et on en comprend la raison, puisqu'il s'agit, je la qualifie en tant que biologiste, le cancer est une maladie du vieillissement cellulaire. Les déficits de notre machine, de notre usine cellulaire, il y a une logique au fait, puisqu'on vit plus vieux, eh bien, inévitablement, l'allongement de la durée de la vie mettra en évidence le fait qu'on développera, dans un âge avancé, des cancers. Alors, si le nombre de cas augmente, il faut aussi reconnaître le fait qu'on détecte mieux et on identifie mieux la pathologie. Donc, les progrès de l'imagerie, les progrès du diagnostic font qu'on appelle aujourd'hui un chat. C'est-à-dire que quand on parle d'un cancer, c'est qu'il a réellement été identifié comme tel au lieu d'avoir été ignoré et que finalement le patient décédé d'une pathologie soit non identifiée ou dont on ne parlait pas, parce que c'était aussi une pathologie dont on n'aimait pas parler. Il faut quand même voir que si le nombre augmente, ce qui augmente aussi, c'est le taux de guérison. Le taux de guérison est considérablement amélioré, puisqu'on guérit aujourd'hui, ou en tout cas, on est capable de gérer au-delà de 5 ans après la découverte de cette affection, on est capable de guérir toute localisation confondue, guérir dans le sens où on peut gérer au-delà de 5 ans, donner une survie aux patients traités à plus de 50% d'entre eux.
Alors ça, ce sont des chiffres qui sont très encourageants. Ouais. Bon, on en parlera un peu davantage de la question du cancer. On s'intéressera un peu plus précisément à deux types de cancers sur lesquels l'Institut Curie a fait beaucoup avancer la recherche. On va marquer une courte pause et se retrouver tout de suite après. On abordera la question effectivement des actions envers le grand public. Et puis on s'intéressera un petit peu plus tard à la question de la recherche auprès de l'Institut Curie. Nous reprenons le cours de notre émission sur l'Institut Curie, qui est précurseur dans la recherche contre le cancer. Je rappelle que mon invité, le professeur Daniel Louvard, dirige le centre de recherche de l'Institut Curie. Alors ma question maintenant, c'est celle des fonds, de la manière de récolter des fonds par le biais d'événements associant le grand public. Alors par exemple, on a cette grande course Odyssea qui est organisée depuis quelques années, je n'ai pas les chiffres exacts. Odyssea Courir pour Curie, elle a rassemblé en octobre 2007 plus de 7000 participants, elle a permis de récolter 110 000 euros pour la recherche. Dans ce cas précis, il s'agissait d'une mobilisation contre le cancer du sein chez la femme jeune. Alors cette course, je peux en parler puisque je l'ai faite et je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de bruit autour de cette manifestation parce que lorsque vous donnez ces 15 euros pour participer, l'intégralité des frais de participation sont versés à la recherche. Pourquoi est-ce que, par rapport à des manifestations ou des courses autres dans lesquelles les fonds sont versés uniquement à leur portion congrue à la recherche, une course comme celle-ci n'est pas plus médiatisée ? Est-ce que vous en avez une idée ? Pourquoi on n'en parle pas davantage ?
Je n'ai pas de réponse précise à la question que vous posez.
Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ou pas du tout ?
C'est une question que je me suis posée, mais sous un autre angle. À savoir que je trouve déjà fantastique qu'il y ait une telle participation, qu'elle ne soit pas médiatisée. Je dirais que c'est un aspect technique, où il faudrait que les médias s'en emparent. Mais qu'il y ait déjà tant de monde qui participe à cet événement, pour une collecte de fonds qui n'est pas négligeable. Mais le plus important, ce que je retiens, c'est que la cause du cancer et la démarche personnelle, individuelle, vous l'avez fait, est en soi quelque chose d'extrêmement réconfortant pour les cliniciens comme pour les chercheurs. De l'Institut Curie, bien sûr.
C'est-à-dire que c'est au-delà de la somme qui est récoltée, ça vous encourage dans vos recherches ?
Ne crachons pas dans la soupe, comme on dit.
Bien sûr.
Certainement pas. Mais au-delà de la somme qui est récoltée, qui n'est pas négligeable, mais comparée aux coûts et aux budgets qui sont les nôtres, vous voyez que 110 000 euros, ça va permettre de financer, on va dire, un grand microscope, où ça va permettre de payer le salaire de deux post-docs. C'est très bien. C'est très bien. C'est une contribution que l'on doit admirer. Mais ce que j'admire, c'est l'engagement des gens. Alors, une petite précision sur ce que vous avez dit. Odyssea est une démarche qui est réellement dédiée au cancer du sein de la femme jeune, qui d'ailleurs est une affection qui, sans qu'on la comprenne réellement, est en accroissement. Et Odyssea nous a demandé il y a maintenant la course à laquelle vous avez participé était la deuxième édition. Malheureusement, je ne me trouvais pas à Paris pour y participer ce jour-là.
Mais l'année prochaine.
Bien sûr. Mais il y a longtemps qu'il y a des gens qui courent dans toute la France, en particulier dans des villages. Courir pour Curie, courir pour la vie, qui a été créé il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe, par un père qui, ayant perdu sa fille jeune d'un cancer, a décidé de déployer son énergie pour cette cause et a mobilisé autour de lui un certain nombre d'amis. Et ceci a fait boule de neige.
Et ça marche, puisque aujourd'hui, voilà. Ça se développe.
Et j'ai toujours trouvé très émouvant la remise des trophées à cette association qui maintenant, en quelque sorte, se trouve regroupée dans cette démarche avec Odyssea. Donc ça fait plus de monde, ça fait le symbole grandit. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important.
Moi, je tiens à le souligner, c'est très rare, une manifestation sportive où l'intégralité des frais de participation est reversée intégralement à la recherche contre le cancer. Il y a très, très peu d'événements sportifs qui sont dans ce cas-là, donc je pense que c'est une initiative à souligner. Alors, vous pensez que les gens se sentent concernés quand il s'agit de manifestations comme ça, où il y a quand même un petit caractère ludique, puisqu'on invite les gens à courir, ils ne donnent pas de l'argent dans des pièces jaunes dans une boîte, toute référence à un événement ayant existé étant purement fortuite. Est-ce que vous pensez que les gens se mobilisent plus facilement quand il y a une démarche un peu ludique comme ça, où ils peuvent aussi donner sans que ce soit associé à une quelconque manifestation?
Vous parlez de ludique, je dirais plutôt une rencontre sociale, en fait. Parce que finalement, en participant à cette manifestation, il y a un effet de masse. Vous vous retrouvez avec des gens qui partagent la même conviction que vous et qui ont le même engagement. Alors que si envoyer un chèque depuis son bureau ou aller mettre une pièce dans un tronc, c'est presque un acte individuel. Parce que là, il y a une manifestation qui est associée à cette démarche et cette volonté de dire « je soutiens la recherche contre le cancer ». Je trouve qu'il y a là, on va jusqu'au bout du symbole, c'est-à-dire il y a un effet de solidarité qui est vécu à travers ce cordon de coureurs, quelle que soit la vitesse à laquelle ils parcourent le...
Oui, puisqu'il y a deux formules, il y a la formule marche,
voilà.
la
Donc
formule...
Donc on voit bien qu'on n'est pas dans l'exploit sportif. Peu importe qu'il y ait un premier
dans
ou
l'union
dernier,
contre la maladie.
Voilà, c'est ça que je trouve assez émouvant, si vous voulez, dans la démarche. Et aussi une participation de très jeunes, de jeunes enfants, et une participation de personnes qui ont déjà atteint un âge très avancé, comme j'ai pu le voir lors des courses que j'ai fait auparavant avec l'autre association.
En restant sur le domaine du sport, on en parlait un petit peu avant cette émission, la question des parrains et marraines qui possèdent une certaine notoriété. On parlait par exemple d'Amélie Mauresmo. Vous en pensez quoi de ce genre de parrainage de personnes célèbres?
Le parrainage, ça montre que des personnes célèbres qui souvent acceptent de parrainer parce qu'ils sont eux-mêmes, ont été touchés de par leurs proches, de par leurs amis, ont été touchés par la maladie. Et le fait de prendre une célébrité dans un monde du sport, on retrouve à nouveau l'aspect ludique, moins triste que de prendre d'autres exemples ou d'autres activités. Par exemple, je trouve qu'il n'y aurait pas le même symbole si on prenait un businessman célèbre. Je crois qu'en prenant une femme qui est connue dans le monde du sport, qui marque ainsi son engagement personnel pour lutter contre la maladie, je crois qu'il y a, à nouveau, on est dans le symbole et dans la solidarité. En prenant quelque chose, une activité qui est accessible à tout le monde. On pourrait prendre un grand savant ou un grand artiste connu d'une poignée d'individus, ça n'aurait pas le même impact.
Ça fait parler de l'Institut Curie, voilà. Pour de bonnes raisons. J'en ai parlé également dans mon introduction de cette émission. La campagne dévoilée le 20 octobre 2007 a de quoi faire frémir. Alors, pour ma part, je l'ai découverte dans le métro. C'est vrai que des gens puissent s'offusquer qu'en prenant le métro le matin pour aller travailler, on leur annonce qu'ils avaient une chance sur deux d'être atteints d'un cancer dans leur vie. Parce que c'est vrai que dans l'imagerie populaire, ça reste une chance sur deux de mourir. Enfin, je caricature un peu, mais pour les gens, le cancer, c'est encore quelque chose dont on meurt, ce qui est encore réel.
Alors, cette campagne de presse, vous imaginez bien qu'elle a suscité, avant d'être lancée dans le grand public, un grand débat interne, tant chez les chercheurs que chez les cliniciens. Nous avons été amenés à échanger entre nous. Pour les chercheurs, si vous voulez, ça représentait la vérité froide, la science. C'est ce que l'on sait. C'est un chiffre qui est incontestable. Ça ne veut pas dire pour autant que les chercheurs n'ont pas d'émotion et qu'ils ne vivent pas non plus ce chiffre avec une certaine inquiétude. Pour les cliniciens, le message connu d'eux-mêmes également, les statistiques sont parfaitement claires, eux qui ont le contact permanent avec le malade et avec leur famille, certains ont pensé que ceci avait un caractère anxiogène. Et je crois que le message lui-même, pourquoi cette campagne ? Cette campagne, c'était un appel à une prise de conscience, mais une prise de conscience qui invite à aller plus loin.
Si je peux me permettre un parallèle, on a vu effectivement des campagnes similaires dans leur démarche choc pour les accidents de la route. Mais c'est vrai qu'un accident de la route, D'une certaine manière, on peut potentiellement l'éviter par la prudence, alors qu'un cancer, effectivement, on peut freiner son apparition par des bonnes règles d'hygiène de vie, etc. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on a un pouvoir d'action. Donc c'est un peu violent quand même.
Vous avez aussi le pouvoir de rouler moins vite et de rouler à jeun au volant.
Bien sûr, voilà, justement.
On est dans une démarche qui, pour moi, est équivalente.
Mais le cancer, on est un peu impuissant devant cette maladie.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Voir le cancer comme une fatalité...
Alors, je ne dis pas une fatalité, mais...
Si vous dites que c'est impuissant, qu'on est impuissant...
Il y a plus d'impuissance que de conduire doucement.
Alors, vous avez à la fois raison. Vous allez me reprocher de changer de sujet encore, mais vous m'y invitez. Quand on comprend l'origine de la maladie, sur les bases biologiques.
Non, mais ça tombe très bien, on allait rentrer dans le sujet. Donc
je suis amené à ne pas être tout à fait d'accord avec la fatalité. Alors, la campagne, si vous voulez, de la même manière que les campagnes choquent pour les accidents, notre objectif était de prendre le problème dans la brutale réalité, mais aussi de participer à ce qui est indispensable, c'est-à-dire une éducation et une information du grand public. Éducation, puisqu'en fait, la campagne invite. Je ne sais pas si ceci est suivi d'effet. Certains, probablement ayant vu ça le matin en prenant le métro, n'ont surtout pas envie d'en savoir plus.
Ça change des couvertures de programmes télé.
Mais il y a dans cette campagne l'invitation à aller sur le site de l'Institut Curie et de chercher de l'information et d'avoir des explications. Et aussi d'aller sur la suite que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire certes, il y en a un sur deux qui, dans sa vie, pourra développer un cancer, mais je vous ai aussi dit qu'aujourd'hui, nous en guérissons un sur deux. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a 20 ans.
Alors, moi, je vais faire un flashback encore un petit peu plus loin dans l'histoire. L'Institut Curie aura 100 ans dans très peu de temps, dans 2 ans à peine. Le cancer, on en connaissait quoi au début du siècle dernier ?
Au début du siècle dernier, si vous voulez, je dirais que la partie descriptive de la caractérisation, ça, c'est une tumeur. Et cette tumeur est maligne ou cette tumeur est bénigne.
Ça, c'était fait.
L'anatomopathologie, qui, n'oublions pas, est née au milieu du 19e siècle, avec comme l'un des grands leaders étant Rudolf Virchow. Les anatomopathologistes, au moment de la création de l'Institut Curie, étaient capables de classifier et d'identifier les différents types de tumeurs. On a fait des progrès, on a amélioré au fil du temps les moyens d'observation. Mais tout ça était présent.
Donc les moyens d'observation existaient, mais pas nécessairement les moyens de guérir.
Alors, si vous voulez, ce que l'on savait aussi, et qui reste vrai, c'est qu'une tumeur, c'est d'ailleurs l'imagerie populaire a bien compris cela, c'est quelque chose qui se prolifère de manière anarchique. De fait, il faut voir une chose, c'est qu'il y a un moment où la tumeur s'emballe, mais ceci peut prendre des dizaines d'années dans une progression sourde. Et c'est au moment où réellement on découvre la tumeur lorsqu'elle est palpable ou lorsqu'elle crée un problème du fonctionnement de nos organes que par une imagerie, une radiothérapie, maintenant le scanner, etc., que l'on en identifie une masse tumorale souvent importante. Les progrès d'imagerie, au contraire, et des diagnostics précoces doivent permettre d'intervenir plus tôt. Ça s'est développé au cours des 20 ou 30 dernières années. Donc quand vous parlez de qu'est-ce qu'on savait il y a 100 ans, c'était une masse de cellules qui encombrait un certain nombre de voies respiratoires, digestives, du tractus urogénital et qui perturbait le fonctionnement normal de l'organisme. Et l'anatomopathologiste pouvait préciser la nature de ces cellules et leur caractère malin ou bénin. L'approche expérimentale thérapeutique à l'époque était très largement empirique. Et l'application de la radiothérapie ou des radiations au traitement des tumeurs, est une démarche, si vous voulez, en un sens, elle-même qui ne s'appuyait pas sur les mécanismes fins du fonctionnement des cellules et de leur dérèglement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le changement, si vous voulez, en tant qu'étudiant, j'ai appris un certain nombre de connaissances sur l'origine du cancer à une époque où il y avait plusieurs théories. Il y avait la théorie virale, c'est-à-dire que les cancers sont induits par des virus. Il y avait une théorie que les agents chimiques ou les agents physiques sont responsables du dysfonctionnement de nos cellules. Aujourd'hui, finalement, toutes les théories antérieure à une découverte fondamentale dont la date est bien précise, 1976, la découverte par Harold Varmus et Michael Bishops, à qui on a attribué le prix Nobel ultérieurement pour leur découverte, découverte du premier oncogène. C'est-à-dire d'identifier des gènes qui d'ailleurs pouvaient être transportés sous une forme modifiée par des virus qui en assuraient la propagation, des gènes qui, sous leur forme altérée, sont responsables des dérèglements de la prolifération cellulaire. Et c'est plus tard, une dizaine d'années plus tard, qu'on a découvert le contrepoids des oncogènes. Les oncogènes sont des gènes qui activent la prolifération cellulaire. C'est un accélérateur. Et nous avons également des gènes qui contrecarrent l'effet des oncogènes, qu'on appelle gènes suppresseurs de tumeurs. Ce sont des freins. Lorsque la tumeur s'emballe, plusieurs oncogènes se sont mis en place dans nos cellules qui accélèrent son rythme de prolifération. Et les gènes suppresseurs de tumeurs, c'est-à-dire les freins, ne sont plus fonctionnels. Donc vous avez une situation qui est équivalente à celle où vous conduisez votre voiture en haut d'un col, vous entreprenez la descente, vos freins lâchent et vous avez le pied sur l'accélérateur et l'accélérateur est bloqué.
Alors c'est en ça que la génomique et la biologie moléculaire ont bouleversé la recherche contre
c'est
le cancer.
C'est en ça que la génétique, avec les outils de la biologie moléculaire, ont permis depuis 1976 de découvrir quelques centaines de gènes impliqués dans la maladie cancéreuse.
On n'a pas encore fini d'en découvrir.
Si vous voulez, sur nos 30 000 gènes, on n'a pas fini, mais on n'est probablement pas très loin. La question, ce n'est pas de les identifier un par un, c'est de savoir comment ils dialoguent entre eux et comment ils contribuent à la perturbation du fonctionnement anarchique des cellules. C'est aussi, et c'est extrêmement important, les gènes qui sont capables d'éviter la mort cellulaire. Lorsqu'une cellule normale a accumulé des erreurs, elle s'engage dans un processus de suicide, l'apoptose, parce que cette cellule a accumulé des erreurs et qu'elle ne sait plus les réparer. Ce que fait une cellule normale dans ces conditions-là, elle meurt spontanément. Par contre, la cellule tumorale a cette capacité que bien qu'elle ait accumulé les erreurs, qu'elle ne sache pas les réparer, d'éviter la mort et donc de continuer à proliférer. C'est un autre élément. Et le dernier élément qui est tout aussi important dans la compréhension, pour faire une tumeur, il faut une tumeur agressive, il faut perturber plusieurs fonctions cellulaires. La multiplication, la mobilité, les capacités d'envahir les tissus, l'incapacité à reconnaître qu'on a fait des erreurs et à continuer, au contraire, à se développer, et la capacité à capter de nouveaux vaisseaux sanguins et de créer ce qu'on appelle une néo-angiogénèse, parce qu'une tumeur qui se développe, elle a besoin d'éléments nutritifs. Et ces éléments nutritifs lui étant apportés par le sang, il est indispensable que le réseau sanguin se développe autour de la tumeur. Et donc, si vous voulez, ça, c'est tous les événements génétiques qui, pendant une dizaine d'années, toutes ces erreurs vont se mettre en place. Et à la fin, lorsque ces erreurs auront été cumulées et que les cellules auront réussi à persister dans l'organisme, on va voir l'explosion du phénomène et l'envahissement de l'organisme entier par des métastases. Si vous voulez, ces notions-là étaient parfaitement décrites, on va dire, au fil du temps, ont été décrites par les pathologistes, par les cliniciens. Mais l'origine de ces perturbations, c'est-à-dire le fait que ce sont nos propres gènes qui, lorsqu'ils se dérèglent ou qu'ils sont altérés par des mutations, mutations qui vont pouvoir avoir été provoquées par des infections virales, par des agents chimiques qui nous entourent, par des actions physiques auxquelles nous sommes exposés, qu'il s'agisse des radiations solaires ou qu'il s'agisse des radiations d'éléments radioactifs, eh bien, toutes ces choses-là sont capables d'altérer nos gènes et de ce fait d'être à l'origine des cancers. Donc, la maladie cancéreuse est une propriété intrinsèque propre à notre existence.
Et ça veut dire que l'homme ne pourrait pas exister sans cancer, d'une certaine manière.
C'est la façon dont la machine est construite qui fait que les altérations de ce fonctionnement harmonieux vont conduire, c'est un peu le yin et le yang, si vous voulez. Est-ce que vous imaginez que vous et moi, nous sommes constitués de 50 000 milliards de cellules et qu'une seule de ces cellules, qui se dérègle, c'est-à-dire qui accumule des mutations successives, peut être à l'origine de la formation d'une tumeur.
Alors, on va rentrer plus précisément dans le détail de deux tumeurs sur lesquelles l'Institut Curie a développé beaucoup de recherches. Et on va juste avant marquer une courte pause. On reprend la troisième partie de notre émission consacrée à l'Institut Curie, qui est un précurseur, un pionnier dans la recherche contre le cancer. Alors, quelques petits chiffres concernant le cancer en France. Alors, il est responsable d'un décès sur trois chez les hommes, d'un décès sur quatre chez les femmes. Et en 2003, on estimait que 800 000 personnes vivaient avec un cancer et 2 millions de Français en avaient eu un dans leur vie. Vous l'avez dit précédemment, l'incidence des cancers a augmenté considérablement. Le chiffre, c'est 63%, donc c'est quand même assez important. Vous disiez précédemment que la recherche avait permis de guérir beaucoup plus de cancers. Je me permets de citer une interview que vous aviez donnée aux Parisiens en 2002. Vous étiez alors vice-président de la mission cancer lancée par le gouvernement. Et vous disiez que nous étions en tournant historique dans la recherche contre le cancer. Je vous cite, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous sommes à un tournant historique en ce moment dans la lutte contre le cancer. Nous avons maintenant à notre disposition des informations considérables sur la maladie, mais ces connaissances sont un peu éparpillées entre nos différentes chapelles. Alors, il y a 5 ans qui se sont écoulés depuis. Est-ce que vos espoirs, vos prédictions se sont avérés justes? Quel bilan vous pouvez-vous dresser 5 ans après?
Alors, le bilan est effectivement très positif. Parce que ce que je voulais dire à cette époque que j'ai abordé il y a quelques instants, c'est que on a une compréhension précise, de plus en plus précise, des gènes qui sont impliqués dans la progression, qu'on appelle la progression tumorale, et du rôle que jouent ces gènes dans les différentes fonctions cellulaires que j'ai évoquées tout à l'heure, multiplication, mobilité, apoptose et angiogénèse. Autrement dit, on est maintenant, au lieu de considérer la cellule comme une boîte noire, on a décortiqué certains de ces dysfonctionnements et les acteurs. Imaginez, c'est comme quand vous êtes dans une usine. Cette usine fonctionne dans une chaîne. Et dans cette chaîne, vous avez différentes parties qui contrôlent le bon fonctionnement de l'usine. Et dans chaque machine qui permet d'assurer ce bon fonctionnement, on est capable d'identifier des pièces détachées. Autrement dit, on est un peu une démarche, si vous voulez, à la fois de catalogue, et de détective, de recherche, où est la panne et pourquoi? Peut-on remplacer la pièce détachée? Peut-on remplacer la machine en entier? Et à partir de cette compréhension, on a vu naître, et c'était ce que je voulais dire il y a 5 ans, c'est d'une part affiner le diagnostic. On n'a pas le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du poumon. À l'intérieur de chacune de ces tumeurs, définies par leur localisation d'organes, on a une très grande variété de dérèglements. Et autrement dit, la classification sur laquelle nous avons vécu pendant des décennies a largement explosé pour aboutir à une définition moléculaire qui est la contribution de ce qu'on appelle aujourd'hui la génomie.
Vous disiez à l'époque qu'il était urgent de rassembler ces connaissances à niveau national et européen. Est-ce qu'aujourd'hui, la collaboration entre les différents
Donc justement, de cette démarche sont nés des traitements ciblés, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, et une approche des traitements qui met en phase le diagnostic et le traitement par une démarche qui va vers un traitement individualisé. Pour chaque patient, avoir fait un diagnostic précis et préconiser une approche ciblée. Et des nouveaux traitements sont apparus qui ont pour nom Herceptine, c'est un anticorps monoclonal, qui est capable de bloquer l'action d'un récepteur de surface qui contrôle la prolifération. Des petites molécules qu'on appelle Glivec, fabriquées par des chimistes, qui agissent de la même manière, en bloquant l'action effrénée d'un récepteur cellulaire qui conduit les cellules à proliférer, Et ça, c'est ce qui a changé. Pourquoi ceci a pu se faire? C'était en gestation, il y a une dizaine d'années. Ça a pu se faire parce que dans les laboratoires, dans les hôpitaux, une meilleure collaboration entre chercheurs et cliniciens, avec l'industrie pharmaceutique, avec les sociétés de biotechnologie, un véritable réseau d'informations et une synergie a pu se créer. Et ce à quoi je faisais référence dans l'interview que vous citez, c'était les travaux que menait la commission du plan cancer, c'est de dire nous sommes trop dispersés, les sources de financement sont trop éclatées, les différents centres n'échangent pas d'informations, ne coopèrent pas suffisamment à l'échelle nationale, à l'échelle régionale nationale et internationale. Donc, la structuration des modes de financement, la structuration des échanges d'informations a amené à collecter un plus grand nombre de données, de les analyser et d'essayer de leur donner du sens par l'usage dans ce domaine comme dans d'autres de l'informatique. Et ceci ne fait que commencer.
Est-ce qu'il y a une collaboration à un niveau international entre les différents centres de recherche ?
Il y a toujours eu. Si vous voulez, la compétition entre équipes existe. Et
Elle est source d'émulation, alors.
Elle est source d'émulation. Tout le monde ne collabore pas avec tout le monde, c'est une question de confiance, mais il y a toujours eu des échanges.
Et l'Institut Curie lui-même, qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui de se prévaloir cette renommée internationale ? Est-ce que c'est un matériel de pointe, des équipes au top ? Et puis pourquoi est-ce que des gens viennent à collaborer à l'Institut Curie ? Qu'est-ce qui peut donner envie à des chercheurs de mettre leur savoir au service de l'Institut ?
Il ne faut pas négliger le fait que nous avons une fondatrice dont le nom est très charismatique. Et que depuis longtemps, l'Institut Curie a eu une ouverture nationale et internationale, s'appuyant sur le nom de Marie Curie. Il y a un effet incontestable sur le nom d'une personne qui avait une très grande image à l'échelle mondiale. Alors ça, c'est un point de départ. Mais s'il n'y avait pas une existence réelle et vivante de l'Institut Curie aujourd'hui, nous pourrions vous faire visiter le magnifique musée qui rassemble les éléments de l'environnement de Marie Curie et des instruments qu'elle utilisait. Donc, il y a une réalité aujourd'hui qui s'appuie sur des échanges importants qu'ont les équipes sous la forme de collaboration, de subventions obtenues à l'échelle européenne ou internationale pour faire des projets en commun, qui s'appuie sur des visiteurs en année sabbatique qui viennent des grandes universités américaines et d'Asie et d'Europe, qui sont d'ailleurs financés par l'Institut Curie pendant leur séjour. Qui s'appuie sur, je l'évoquais dans l'organigramme de notre personnel, qui s'appuie sur le fait que nous avons des étudiants français et étrangers qui préparent leur thèse dans nos laboratoires, mais aussi des post-docs étrangers. Les jeunes chercheurs viennent à l'Institut Curie parce qu'ils savent qu'il y a une histoire, qu'il y a une approche de l'étude du cancer qui se fait dans la durée, et une approche, un environnement technique avec des moyens, des instruments qui ne sont que des instruments, mais dont on a besoin pour conduire une recherche moderne. Donc les conditions sont réunies. Ajoutez le fait que Paris jouit quand même d'une excellente réputation en tant que ville où il est agréable de vivre. Et ajoutons aussi que nous sommes situés dans un lieu magique de la recherche académique, qui est la montagne Sainte-Geneviève, où nous avons et entretenons des collaborations avec nos voisins de l'école de physique chimie, qui a été dirigée par Pierre-Gilles de Gênes, l'école normale supérieure, avec laquelle nous échangeons à la fois des collaborations scientifiques, mais aussi nous participons aux enseignements et nous accueillons de nombreux étudiants.
Pierre-Gilles de Gênes, je le précise, vous en parliez à l'instant, prix Nobel de physique, qui a lui-même collaboré pendant 4 ans avec l'Institut avant de disparaître récemment. Alors, vous en parliez précédemment, la recherche s'effectue avec une collaboration entre effectivement l'hôpital et le centre de recherche. On peut se demander comment est-ce que les cliniciens peuvent avoir du temps pour s'informer des derniers protocoles mis au point. Alors, l'Institut Curie a mis en place, vous en parliez dans cette interview à nouveau, un modèle de temps partagé qui permet aux cliniciens de se former. Est-ce que c'est une chimère ou aujourd'hui, est-ce que les cliniciens ont vraiment le temps de prendre connaissance des dernières recherches ?
Alors, une petite correction de vocabulaire, ce n'est pas le temps partagé, c'est le temps protégé.
Ah !
Ce qui change tout. Alors, effectivement, le problème que vous soulevez est un problème fondamental. Devant la gravité de la maladie, devant l'accroissement du nombre de cas, on peut comprendre que la priorité pour un médecin, c'est bien sûr le malade, ses consultations, la phase diagnostique, la phase d'annonce de la maladie, qui est un événement très important, et l'approche du suivi qui va parfois de l'approche chirurgicale, puis la radiothérapie, chimiothérapie. Ceci est un travail d'équipe pour les cliniciens, très chronophage, qui prend énormément de temps. Comment imaginer que le clinicien puisse rencontrer pendant un temps suffisant des chercheurs, s'informer, ils le font. Mais il fallait pour un certain nombre d'entre eux, c'est ce qui a été décidé par le directeur de l'hôpital, le professeur Pierre B, de dégager un certain nombre de médecins et de leur permettre de disposer d'au moins 2 jours par semaine pour consacrer ce temps à des interactions avec les chercheurs, à la participation à des programmes de recherche dans notre département de transfert. Ceci, si vous voulez, évidemment, quand on libère un médecin d'une partie de cette obligation, ça signifie qu'il va falloir en employer d'autres. Donc, de faire venir des médecins de l'extérieur pour assurer les consultations et le suivi des traitements que ce médecin qui va consacrer une partie de son temps à la recherche. Ça veut dire un coût additionnel qui est pris en charge, d'ailleurs, par l'institution du RIF. Vous parliez tout à l'heure des dons et legs. Bien, une partie de ces moyens de collecter vont servir à organiser non seulement l'acquisition de nouveaux instruments, comme on pense souvent, mais aussi de faire en sorte qu'on puisse recruter du personnel supplémentaire. Personnel supplémentaire qui sera payé sur le budget de l'hôpital, c'est-à-dire le ministère de la Santé, mais le clinicien qui fait de la recherche, il va être payé à ce moment-là sur les fonds qui sont eux-mêmes dédiés à la recherche et pour lesquels le donateur a voulu cibler des moyens. Donc ça veut dire que ça coûte plus cher, mais ça veut dire aussi, parce que ça coûte plus cher et qu'on ne peut pas libérer tous les médecins de l'Institut Curie dans cette tâche de recherche, que le nombre aujourd'hui, vous me demandez, est-ce que c'est une chimère ? Non, ce n'est pas une chimère. C'est une réalité, sinon qu'on considère qu'aujourd'hui, il y en a, si mes souvenirs sont justes, une quinzaine. C'est bien, mais c'est insuffisant. Et là, en dehors de l'aspect purement budgétaire, il y a une difficulté. On ne peut pas libérer, comme je dis, tous les médecins 2 jours par semaine, parce que certains de ces médecins ont un savoir-faire, ont une pratique qu'il est absolument indispensable de laisser au service des malades. Donc vous voyez le dilemme dans lequel nous nous trouvons. Et ce n'est pas à vous sur lequel je vais insister, sur le fait que nous ne formons plus assez de médecins. Et en particulier, la cancérologie, il faut le dire, n'a peut-être pas attiré autant de vocations que d'autres domaines de la médecine. C'est une discipline difficile. Vous voyez,
ça pourra faire l'occasion de notre discussion dans nos studios. Alors, la mécanique de l'Institut Curie semble quand même être bien huilée. L'organisation semble être efficace, même s'il y a encore des choses possiblement améliorées. Alors, j'aurais aimé évoquer, je l'avais dit, 2 tumeurs particulières sur lesquelles des recherches poussées sont effectuées à l'Institut Curie. Malheureusement, nous sommes un peu pris par le temps, donc je vais juste donner quelques éléments. Alors, la tumeur d'Ewing, d'abord, c'est la 2e tumeur maligne primitive de l'os en termes de fréquence. Elle survient chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte jusqu'à 30 ans, avec un pic de fréquence entre 10 et 20 ans. Alors, on parle aussi du sarcome d'Ewing. Ce sarcome touche 80 à 120 cas par an en France. Donc en termes relatifs, c'est assez peu, mais c'est important qu'on poursuive des recherches dans ce domaine, puisque ça touche quand même des enfants. Alors malheureusement, je ne pourrais pas trop vous demander de vous prononcer à ce sujet, mais je me permettrai de renvoyer nos auditeurs sur le site de l'Institut Curie, qui divulgue un très grand nombre d'informations et qui est très très complet. Alors le 2e cancer, on en a parlé, beaucoup pris en charge par l'Institut Curie, c'est le cancer du sein. Vous le disiez, près de 55% des patients pris en charge à l'Institut Curie viennent pour un cancer du sein. C'est un centre donc de référence pour cette affection en France, qui accueille 3500 patientes chaque année atteintes d'un cancer du sein. Alors ça, c'est juste un mot que je vous demanderai à ce sujet. Il semble que l'Institut Curie accorde beaucoup d'importance à la dimension psychologique de ces cancers et à la chirurgie réparatrice dans le cas du cancer du sein. Si vous pouviez juste nous dire quelques mots là-dessus.
Il va de soi qu'en dehors de la gravité de cette pathologie, il faut le préciser que l'on gère de mieux en mieux. 85% aujourd'hui des femmes atteintes d'un cancer du sein seront, on dira, guérie dans le sens où elle ne rechute pas après 5 ans, ou les 5 premières années après la découverte de leur pathologie, elles n'ont pas rechuté. Alors évidemment, depuis longtemps, l'Institut Curie a préconisé la conservation du sein, la mastectomie bilatérale comme elle s'est pratiquée aux États-Unis à une certaine époque, et soigneusement évitée, sauf cas rarissime ou extrême, à l'Institut Curie. Et il n'empêche que les interventions chirurgicales, puis la radiothérapie qui fera suite à la prise en charge de ces malades, fait que très souvent, on a besoin, et on le pratique, d'effectuer une chirurgie réparatrice. Parce que qu'y a-t-il de plus mutilant pour une femme que de pratiquer une ablation ou même une exérèse mutilante de l'un ou parfois même des 2 seins ? Donc, effectivement, il y a cette démarche. Et puis, il n'y a pas que le cancer du sein qui bénéficie de cet accompagnement. Il y a un suivi psychologique.
Oui, c'est très important.
Très important.
Je me permets de citer le prix. Enfin, je ne sais pas si vous parlez d'un prix, mais le fameux ruban rose. Et alors, je ne sais pas s'il est remis chaque année ou je ne sais pas depuis combien de temps. Mais cette année, il a été remis à une psychologue de l'Institut Curie qui s'appelle Anne Bredard pour ses travaux sur la qualité de vie des patients atteints d'un cancer du sein. Donc là, on était dans le cas du cancer du sein précisément. Mais ça montre bien l'importance qu'on y porte. Une dernière petite question, un tout petit peu provocatrice. Il y a des chercheurs qui se plaignent que si le gouvernement fait de la lutte contre le cancer sa priorité, la recherche contre le cancer elle-même n'est pas prioritaire. Vous en pensez quoi ?
La question telle que vous la posez est embarrassante parce que la lutte contre le cancer ne saurait se passer de la recherche contre le cancer. Alors, il est incontestable que le plan cancer ne comporte pas qu'un soutien à la recherche. Il comporte des actions de prévention.
Soutien aux malades, etc., bien sûr.
De soutien aux malades. Mais il est injuste de dire que le plan cancer est aujourd'hui mis en œuvre par l'INCa. N'apporte pas un soutien aux équipes de recherche.
Donc vous trouvez que ce propos est injustifié?
Ce propos est injustifié. Alors, je vous donnerai un avis personnel. Si on regarde les sommes qui sont engagées, que ce soit pour la recherche pour le cancer ou la recherche en général, le problème n'est pas tellement sur la valeur absolue des moyens mis à notre disposition, mais ce qui reste aujourd'hui un véritable parcours de combattant pour les chercheurs, c'est comment utiliser rapidement, efficacement, et avec souplesse, ces moyens. Nous sommes, dans ce domaine, comme dans d'autres domaines de la vie quotidienne des Français, engoncés dans des pratiques lourdes, administrativement complexes, et dans lesquelles on a du mal à agir efficacement. Et la particularité, je terminerai là-dessus, j'ai voyagé dans de nombreux pays, j'ai exercé mon activité aux États-Unis, en Allemagne et en France. La particularité d'une fondation comme l'Institut Curie, et d'apporter, en plus des moyens publics, une souplesse et une réactivité d'utilisation des moyens qui nous sont apportés par des donateurs, des légataires. Et nous avons, parce que la structure est relativement légère, nous avons la possibilité d'utiliser ces moyens et de les cibler avec la plus grande réactivité, la plus grande souplesse, sans complications administratives. Et si un certain nombre de ces procédures pouvaient être généralisées à l'échelle des fonds publics, eh bien, on entendrait moins les gens se plaindre du fait que la recherche n'est pas soutenue. Certes, elle a besoin de continuer à être soutenue par des fonds substantiels, mais regardons plutôt les structures, plutôt que réellement la manière dont le chèque va être découpé en morceaux et où chacun, au passage, aura prélevé un petit quelque chose dans un processus qui prend beaucoup trop longtemps.
Bon, alors, je vous remercie infiniment de nous livrer votre opinion personnelle. Monsieur le professeur Louvard, je vous remercie infiniment d'être venu nous présenter l'Institut Curie. Vous êtes très gentiment prêté à l'exercice de l'interview et je me réjouis d'avance de votre prochaine venue dans nos studios puisque si vous n'étiez pas au courant, c'est l'usage, on dit bien jamais 203. Alors effectivement, je plaisante, mais c'est simplement le souhait que je formule et l'invitation est d'ores et déjà lancée. Je rappelle que nos éditeurs peuvent se référer au site de l'Institut Curie pour toute information complémentaire, www.curie.fr. En vous remerciant une dernière fois, j'aimerais terminer cette émission sur ces jolis mots que je me permets d'emprunter au cancérologue Laurent De Gauss, qui est membre de l'Académie de médecine et président de la Haute Autorité de Santé, qu'il a prononcé à propos de l'Institut Curie. Il a dit « Le médecin a deux cerveaux d'après Michel Serres, l'un scientifique, l'autre humain. L'Institut Curie incarne ces deux cerveaux au niveau institutionnel. » Sur ces quelques mots, je vous remercie. À bientôt.